France Musique. Les grands entretiens, Corinne Schneider.
Je m'appelle Elena Bashkirova. Je suis née à Moscou. Je suis musicienne, pianiste.
Elena Bashkirova, la deuxième grande histoire d'amour de votre vie, c'est celle avec Daniel Barenboim. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre? Vous êtes à Paris? Est-ce que c'est lié au moment donc, où Daniel Barenboim, pianiste et chef d'orchestre, est ici à Paris à la tête de l'orchestre de Paris?
Oui. Quand Daniel avait 13 ans, il était à Paris, il a connu très bien Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein l'a invité pour déjeuner, il a joué pour lui. Rubinstein lui a dit, tu viens avec moi maintenant, on va aller écouter le final de concours Marguerite Long. Il l'a invité, il l'a amené. Et le concours de Marguerite Long, c'était mon papa. Il a gagné grand prix.
Oh, quelle belle histoire!
L'histoire est beaucoup plus drôle encore parce qu'il avait le scandale, il ne voulait pas lui donner le grand prix. Et finalement, il a eu son grand prix. Et alors, Rubinstein l'a amené pour dire bonjour à un jeune pianiste russe. Alors, c'était 1955, comme ça. C'est papa après. Bon, moi, j'étais même pas, ils n'étaient même pas mariés encore. Alors, ça, c'est la première rencontre. Après, il a rencontré aussi en Moscou, parce que Daniel est venu deux, trois fois jouer là-bas. Il a rencontré mon père. Après, ils se sont rencontrés beaucoup de fois. Et alors, bien sûr, et moi, je l'ai écouté une fois avec l'Orchestre de Paris à Moscou. C'était un grand monsieur, comme ça, magnifique pianiste, chef d'orchestre. On était à Menton, à 79. Il a joué là-bas, Daniel, quelques récitals et Guidon et moi, on a joué un récital. À la fin de ce récital, il y a quelqu'un qui vient, il dit « Bonjour, je m'appelle Daniel Barenboim et je connais votre papa ». Voilà, c'était tout.
C'était comme la première rencontre à Menton.
À Menton. Non, mais on a ri beaucoup parce que, bien sûr, je sais qui vous êtes. Et je me rappelle, elle a raconté l'histoire de papa et tout ça, de Rubinstein et tout ça. On a beaucoup rigolé, on est devenus très bons amis, tout. Alors, avec lui et avec Guidon aussi. Et alors, il y avait quelques années qui se passaient qu'on était amis. Et après, de cette amitié évoluait sur quelque chose d'autre.
Et vous vous êtes mariée en 1988. Oui. Vous avez alors 30 ans. Daniel Barenboim en a 46. Et on est à la veille du chute du mur aussi. Ça, c'est toujours important parce que ce mariage, il se passe où? Et comment cela se passe-t-il avec votre famille aussi, vos parents à ce moment-là?
Oui, vous savez, je dois vous avouer quelque chose, qu'on s'est mariés en 88, mais on avait déjà nos deux enfants. On a vécu ici, à Paris, on a commencé notre vie commune. On s'est mariés beaucoup plus tard parce que Daniel était marié avec Jacqueline Depré. Elle est encore, et elle était malade. Et c'était comme ça, un peu difficile, mais tout à fait compréhensible. Et alors, les enfants sont nés. Et c'est simplement après la mort de Jacqueline, quelques temps après, quand on s'est marié officiellement.
Vos deux enfants, vos deux fils sont nés à Paris. Pouvez-vous nous raconter alors le lien qui s'est fait musicalement avec les enfants? L'aîné est plutôt du côté, je dirais, des musiques hip-hop, du rap, et d'ailleurs fait une carrière aux États-Unis, je crois, dans ce domaine. Et le deuxième fils,
électropop.
Et le deuxième fils est le violoniste que l'on connaît, violon solo du Divan Orchestra à Berlin. Alors, comment cela se passe à la maison avec la musique ?
À la maison, à l'époque, ça s'est passé quand ils sont nés. Chacun a essayé un tout petit peu, à partir de 4 ans, 5 ans, on a essayé de les faire jouer les instruments. Ça n'a pas marché beaucoup. David, qui était l'aîné, il a essayé avec un piano. Non, ça n'a pas marché. Après, il a essayé avec la clarinette. Non, ça n'a pas marché. Après, la guitare. Et tout d'un coup, il était penché vers le pop music. Voilà. L'autre, il a aussi essayé avec le piano, Michael. Après, on est parti de Paris à Berlin. C'était drôle parce qu'on n'a pas trouvé un bon pédagogue pour le piano à Berlin.
C'est étonnant,
comme ça.
Oui.
C'est comme ça, voilà. C'est le cordonnier sans chaussures, ça s'appelle. Oui, on ne pouvait pas trouver quelqu'un. Mais on a trouvé, il y avait beaucoup de très très bons pédagogues pour le violon, qu'on a connaissé. Et on a essayé avec lui. Une très drôle histoire avec ça. Je sais pas, c'était l'époque que tous les enfants, ils ont regardé le même film. C'est la série qui s'appelait Le Tortue
Ninja.
Les Tortues
Ninja.
Le Tortue Ninja, vous vous rappelez?
Et
le
Tortue les années 90.
Ninja, oui, exactement. Le Tortue Ninja, il y avait toujours un apocalypse à la fin.
Les grandes catastrophes qu'il fallait résoudre.
Alors, résoudre tout, c'est le Tortue Ninja. Résoudre. Et à la fin, toujours pour le fêter, tout ça, ils ont commandé le pizza. Et alors, pizza, pour tous les enfants de cette époque, était vraiment la chose la plus importante. Et c'était comme ça un marketing génial de ces gens, que bien sûr, dans chaque pizzeria, on a donné les enfants les petites figurines de ce tortue, alors tortue ninja, pizza. Ça, c'est vraiment quelque chose. Avec ça, on est allé, la première leçon de violon chez...
Ah, voilà le lien.
Voilà le lien. Et alors, Micha dit, mais pourquoi je dois faire ça? Et elle dit, ah oui, non, c'est très intéressant. Voilà ton petit violon, voilà ton petit archet, c'est très bien, mais on laisse l'archet à côté. Et tu prends ton violon, tu commences à faire pizzicato. Alors, tout d'un coup, ses yeux sont commencés à briller. Elle m'a dit, ah, pizza. Et alors... À partir de ce moment, il est tombé amoureux de violon à cause de pizzicato. Pizzicato, il a dit que ça lui ressemblait à pizza, Ninja Turtles, voilà, ça y est.
Michael Barenboim, votre fils cadet violoniste, mène aujourd'hui une carrière internationale.
Il a un énorme répertoire. Il a, je crois que l'Assad de son père, la facilité d'apprendre et de comprendre la musique nouvelle, la musique contemporaine, la musique aussi compliquée. Comme on dit, il a quelque chose comme un GPS dans son cerveau. Il voit vraiment la structure. Il sait apprendre les choses. C'est pour ça que je ne pouvais jamais faire ça.
Thank you. Alors, votre fils aîné, David, se dirige, lui, vers le hip-hop et les musiques pop. Oui. Comment avez-vous pu l'accompagner dans ce registre-là, qui est le sien? Et quels sont vos contacts artistiques avec lui? J'aimerais savoir, parce que ce sont des domaines différents, mais néanmoins, je vous sais très proche dans l'échange artistique. J'aimerais savoir comment on peut faire le lien entre les types d'expressions artistiques.
J'aimerais savoir plus, bien sûr. Et au début, comme il a changé son style, il était, vous savez, comme les garçons de ce, comme ça, en puberté, tout le monde fait le hip-hop. Ça, c'est normal. Après, il était plutôt producteur. Il a pratiquement composé la musique, il a fait les beats pour les autres. Après, il a décidé de faire ses propres choses, et aussi chanter, aussi faire les films et tout ça. Alors, il développe. Je suis le développement un tout petit peu du côté. Ce qui me plaît beaucoup, le côté musical, parce que comme il a quand même eu l'éducation musicale, il utilise ça et dans, musicalement, ce qu'il fait, c'est très joli, très très beau. Je peux pas dire exactement que je comprends tout qui se passe aussi. C'est le monde de pop est tellement différent de notre. Il est encore beaucoup plus dur que le nôtre. Beaucoup plus dur de faire quelque chose, d'avoir le succès et tout ça. Alors, il se bat beaucoup. Il faut se battre, il faut beaucoup travailler. Mais il est très créatif, c'est ça ce que j'aime. Il est énormément créatif, il écrit beaucoup, beaucoup de chansons et il fait ses propres textes. Alors, c'est un créatif. Ouais, c'est ce que j'aime.
Wäre ich einer von den anderen, würde ich sagen, ciao. Das ist mein letztes Album, nur das hier ist im Laden Kauf. Doch ich meine es ernst, Brüder. Ich hab die Glock an meinem Kinn. Als Kind lag ich in mein Stockbett und bat Gott um einen Deal. 201 wurde ich verlassen und Rap kam in mein Leben. Damals dachte ich noch an NTM und Rexer, dann Probleme. Raf Camora wurde geboren Ende 2003. Jetzt ist Schluss, ich bring ihn um, seine Zeit ist vorbei.
Elena Bashkirova, revenons à votre lien musical avec Daniel Barenboim. On ne vous voit jamais jouer ensemble à quatre mains.
Mais oui, on a fait une ou deux fois dans toutes ces années.
De manière publique?
Oui, oui, mais c'était très difficile pour moi. Vraiment, c'est difficile pour moi.
À quel niveau?
Il est très exigeant. Et l'exigence est telle que j'avais un tout petit peu de problème avec ça. Mais bien sûr, j'ai appris énormément avec lui et j'apprends toujours avec lui. Quand il y a quelque chose de nouveau, par exemple apprendre les nouvelles pièces, je vais toujours chez lui. Et il est comme mon pédagogue finalement. Il me dit les choses et dans un très court temps, il me met les choses en place. C'est fantastique. Mais jouer avec lui, non, on a décidé ça dès le début, qu'on ne fait pas les choses ensemble parce que il a déjà tout au début, vraiment, il avait la possibilité de jouer comme soliste avec tout le monde, avec les plus grands du monde. Et alors, moi, je devrais être encore beaucoup plus grande pour jouer avec lui parce que sinon, ça va pas. Oui. Et aussi, de toute façon, c'est difficile de trouver son propre profil. C'est ça ce qui est très important. Et je pense que j'ai réussi de trouver mon propre profil et de ne pas juste être considérée comme la femme de quelqu'un. Et j'ai vu aussi, vous savez, beaucoup de carrières qui étaient pratiquement détruites, des carrières de très bons musiciens qui sont quand même passées dans ce jouer toujours avec leur mari ou leur femme. Et ça se passe pas très bien normalement.
France Musique, les grands entretiens d'Elena Bashkirova.
Vous savez, dans les années 80, je vacillais entre faire beaucoup ou faire rien. J'avais deux enfants. Et après la naissance du premier enfant, je pensais, oh, je prends un tout petit peu du temps, je passe avec lui. Et pendant 2 ans, je n'ai pas joué. Et après, quand j'ai joué mon premier récital, après, je me rappelle très bien, c'était à Bilbao, dans une très belle salle historique. C'était la Société des Amis de Musique à Bilbao. Ça date du 19e siècle. Il y a des photos de jeunes Rubinstein et Nikisch, de Kreisler. Je sais pas, tout le monde a joué là-bas, tout le monde. Et j'étais tellement nerveuse après 2 ans de ne pas jouer. Je me rappelle que j'avais l'impression que mon âme quitte mon corps, vraiment. Et qu'est-ce que je fais là, parmi ces photos d'écran d'Albert? Et moi, je suis juste la seule chose que je sais que je peux rien faire. Bon, ça s'est passé, je ne sais pas comment, c'est fini, mais après je me suis dit que jamais plus je vais faire comme ça. Et aussi mon mari, il m'a dit aussi, tu sais, il faut soit jouer assez beaucoup ou soit pas du tout, parce que sinon on ne peut pas vivre comme ça, ça, on devient malade. Et alors j'ai décidé de jouer plus et on commençait, jouer beaucoup de récitals solo et avec les orchestres. Un tout petit peu de musique de chambre, ça commençait peu à peu, comme ça, de rentrer dans ma vie. Avec les récitals, c'est une chose intéressante, parce que j'ai joué, après j'ai arrêté de jouer les récitals, pratiquement pendant très longtemps, à peu près 10 ans. Et la raison pour ça était la solitude. J'étais terriblement seule. Comme tous les pianistes, d'ailleurs, d'être pianiste, c'est d'être seul. Parce que même si tu joues un autre instrument et si tu voyages avec un pianiste. Alors, on est moins deux personnes, mais pianiste, c'est seul. Et j'étais très mal avec cette solitude avant le concert et après le concert. Sur la scène, on est seul, c'est normal. On est là, on a l'adrénaline qui est là, on veut jouer. Mais l'existence comme ça de pianistes qui voyagent, on prend le train ici, on prend le train là-bas, on prend l'avion ici, on arrive, on ne connaît personne, on va dans la salle, il y a personne. On joue, après le concert, il y a personne, on va à l'hôtel. Les restaurants sont souvent fermés, on ne veut pas aller toute seule au restaurant la nuit. On reste dans la chambre et beaucoup de ces petites villes, ils n'ont pas de grands, ni restaurants, ni room service. Et on finit après le concert, quand on a tellement d'énergie, encore on finit avec une boîte de cacahuètes, de mini-bar. Et ça, 1 ou 2 fois, moi, je tout encore dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai petits-enfants, j'ai marié à la maison et je suis là avec les cacahuètes. Qu'est-ce que c'est? Alors, depuis ce temps-là, je n'aime pas les cacahuètes parce que ils me donnent l'impression de la solitude. Cacahuètes, oh non, je n'aime pas ça. Non, non. Mais ça, c'est vraiment. Et alors, je pensais que ça pas pour moi. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé de faire plus de musique de chambre. J'ai créé un petit ensemble. On est déjà à Berlin. D'ailleurs, à Paris, j'ai fait quelques musiques de chambre avec les amis, mais pas mes propres choses. Alors, je suis allée dans tel et tel festival, participer par-ci, par-là, des choses. Et alors, j'ai gagné d'expérience, des bonnes et des mauvaises. Alors ça, je pensais que apprendre de quelque chose de bien, c'est bien, mais aussi, il faut apprendre des choses qui ne sont pas si bien. Et alors, avec le temps, j'ai plus ou moins cristallisé les choses que je veux faire.
Vous êtes trouvée, Elena Bashkirova, vous le dites vous-même. Qu'avez-vous trouvé dans cette carrière?
Pensez à la musique de chambre. Comme ça, j'ai joué autant que je pouvais, j'ai essayé de créer un petit ensemble à Berlin. Ça n'a pas tellement bien marché, mais quand même.
C'était avec les solistes de l'orchestre?
Puis soliste de l'orchestre de Berlin, de Philharmonique de Berlin, mais j'étais pas encore prête. Vraiment, ça commençait avec le, disons, la naissance du festival à Jérusalem. C'est là que j'ai commencé, j'ai décidé de faire les choses moi-même. Avec quelques amis, j'ai trouvé les gens qui étaient assez enthousiastes de le faire. C'est venu juste comme ça, par hasard. J'étais en concert, à Jérusalem d'ailleurs. C'était un concert, l'anniversaire de l'orchestre philharmonique d'Israël. Et il avait trois solistes parce qu'ils ont joué le triple de Beethoven. Il avait Perlman, il avait Brandtman et Maïski. À la pause de ce concert, il y avait quelques amis, comme ça, les musiciens et les journalistes musicaux qui étaient là, on a bavardé, ils ont dit « Ah, mais c'est terrible ici, il se passe absolument rien, et surtout Jérusalem, ça meurt vraiment, il y a rien, il faut faire quelque chose, il faut peut-être créer un festival. Toi, pourquoi tu fais pas un festival de musique de chambre ?» Mais je dis « Mais écoutez, moi, je suis là juste quelques jours, je n'habite pas ici. » Mais oui, mais toi, tu pourras faire parce que tu... Alors après le concert, je vais là-bas et j'ai parlé avec Brandtman, qui était un bon ami de moi, et Misha Maïski aussi. Je dis, qu'est-ce que vous direz si on pouvait faire quelque chose à Jérusalem? Parce que c'est important ici quand même. Ah oui, oui, il faut faire quelque chose. Absolument. Et vous venez si on organise ça? Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'argent. Oui, mais aucun problème, bien sûr. Mm-hmm. Alors, j'avais deux déjà. Avec ces deux-là, je commençais à téléphoner aux autres et tout le monde a dit oui tout de suite. Tout en coup, j'avais, je ne sais pas, vingtaine, trentaine de très grands musiciens. J'ai téléphoné aussi à toutes les, disons, grandes solistes, grands orchestres. Et tout en coup, on avait une équipe et ça a pris 2 ans. On a trouvé l'endroit et déjà... Tout de suite, ça commençait. Alors, à ce moment-là, j'étais déjà dans cette mode organisation aussi jouée.
Cette dynamique collective, d'ailleurs.
Oui, dynamique collective qui est quelque chose qui m'a plu énormément. Et je pense que ça, quand j'ai l'énergie, quand je suis pas trop fatiguée, le talent est de communication entre les musiciens, de connecter les gens.
Et ensuite, de connecter sur scène artistiquement,
oui,
parce que
oui.
C'est ça qui est formidable.
Ça,
vous avez
oui,
la capacité
oui.
de générer autour de vous
oui.
cette activité, mais également, vous êtes sur scène avec
vous
les
musiciens. Vous savez ce qui est magnifique, tout de même. Mais oui, parce que quand même, je suis musicien, je ne veux pas devenir uniquement organisateur. Non, non, non. Je pense que de la début, la formule de ce festival est très bien passée. Il avait les plus âgés, et les gens avec déjà des noms et solides et tout ça, et les très 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 jeunes qui sont juste commencé leur parcours. Et d'avoir ce mélange des gens, c'était très très bon parce que comme les jeunes avec leur élan artistique et leur énergie, ils étaient très bien pour les plus âgés qui avec l'expérience et leur carrière. Alors, ça a très, très bien marché. Et vous savez, ce qui m'a donné énormément de plaisir, c'est que les gens qui étaient très, très jeunes et juste au début, on les a vus pendant des années devenir quelque chose vraiment... Notre Renaud Capuçon était là de première année. Il est venu, il avait 22 ans. Quelque chose, son frère aussi, Schneider était là, Fimo Brandtman est venu. Il avait vraiment les gens qui n'étaient pas encore au zénith, mais c'était génial de voir ça, le développement comme ça.
Le public du Festival international de musique de chambre de Jérusalem applaudissait cette romance de Joseph Elmsberger pour quatre violons et piano avec Elena Bashkirova au piano. C'était en 2009. Demain, Elena Bashkirova reviendra sur ce festival dans le quatrième volet de ses grands entretiens, une série réalisée par Christine Amado, préparée par Flora Sternadel, avec François Rivalan à la prise de son, Claude Niort au mixage. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.